8h47 sur France Culture, la séquence TTC avec la transition d'Hervé Gardette ce matin. Vous vous demandez si nous ne sommes pas en train de vivre un petit âge glaciaire.
Je vais vous parler en tout cas du petit âge glaciaire. Mais commençons par 2019, Guillaume, qui a bien été la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée par l'Organisation Météorologique Mondiale, ce qui nous éloigne, a priori, du petit âge glaciaire. En tout cas, c'est ce qui ressort, ces statistiques, de sa dernière édition à l'OMM sur l'état du climat, édition publiée hier. Un processus de réchauffement ininterrompu depuis une quarantaine d'années. L'OMM fait le constat que depuis les années 80, chaque décennie a été plus chaude que toutes les décennies précédente depuis 1850. Il va falloir s'habituer à ce genre d'annonce. Quand bien même nous réussirions à inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre, il faudra du temps pour inverser celle des températures, la faute au stock de CO2 accumulé dans l'atmosphère. En avoir conscience ne doit pas pousser à ne pas agir, bien au contraire. Nous sommes à un tournant. Probablement la fin d'une époque dont les débuts sont difficiles à cerner, mais que les théoriciens de l'Anthropocène fixent au milieu du 19e siècle, au moment de l'envol de la révolution industrielle. C'est d'ailleurs ce curseur qui est utilisé pour mesurer et comparer l'évolution des températures. Mais pour comprendre les enjeux de la transition dans laquelle nous sommes engagés, peut-être serait-il judicieux de choisir un autre début, quelques siècles plus tôt, lorsque l'Europe se retrouve prisonnière du petit âge glaciaire. C'est le point de départ du formidable essai du philosophe allemand Philippe Blom, « Quand la nature se rebelle » que vient de publier la Maison des sciences de l'homme. Le petit âge glaciaire s'étend sur plusieurs siècles. Il commence au 14e et culmine au début du 17e, avec un recul des températures moyennes de 2 degrés Celsius, au moment où l'Europe traverse une immense révolution sociale, économique et culturelle, ce qui pose la question de savoir dans quelle mesure les deux phénomènes sont liés. Philippe Blom prend bien soin de ne pas faire de cette longue période de refroidissement la cause unique des mutations que vont connaître les sociétés européennes, mais il voit dans ce changement climatique un facteur de pression durable qui favorisa ou imposa de nouveaux bouleversements, parce que des structures anciennes et jusqu'alors stables s'effondrèrent. Le livre s'ouvre sur la reproduction d'un tableau, paysage d'hiver, du peintre néerlandais Hendrik Haverkamp. On y voit une foule déambuler sur un sol entièrement gelé. L'ambiance a l'air festive, pourtant si l'on s'intéresse aux détails, c'est la mort qui rôde. Le petit âge glaciaire est une catastrophe pour la paysannerie qui voit se succéder les récoltes catastrophiques. « Dieu nous a abandonnés », écrit un moine à Amsterdam en 1572. « Le Seigneur miséricordieux veut ainsi nous montrer à quel point nous nous sommes égarés. Le sens commun de l'époque veut que les catastrophes climatiques qui s'abattent sur le continent soient une punition divine. Il faut châtier les coupables, les hérétiques, et expier ses fautes par la prière. Mais rien n'y fait, le froid persiste. Le modèle religieux et moral n'ayant de manière évidente apporté aucun résultat positif, écrit Philippe Blom, une génération de pionniers intellectuels commença alors à découpler la nature de la création. Dès lors, Dieu n'est plus considéré comme responsable de tout. La place est libre pour que se développent à la fois des techniques et des pratiques permettant de surmonter les soubresauts du climat, ainsi qu'une philosophie qui va placer l'individu au centre du jeu. En résumant à très gros traits, on pourrait dire que le petit âge glaciaire contribua à l'émergence du capitalisme et des Lumières, un double héritage paradoxal faisant cohabiter l'universalité des droits de l'homme avec l'exploitation des ressources naturelles et humaines. La crise climatique à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui verra-t-elle des bouleversements d'une ampleur identique? On pourrait en tout cas se servir de ce point de comparaison du petit âge glaciaire pour procéder à un petit jeu et se demander: quel est le Dieu dans lequel nous croyons si fort aujourd'hui qu'il nous interdit de changer nos modes de fonctionnement? Et où sont les pionniers intellectuels capables de penser le monde autrement? Qui va rallumer les lumières?
Merci Hervé Gardette.